à nos chers téléspectateurs, shalom, boker tov. Nous sommes dans cette nouvelle émission de la télévision du Maron Meir et ensemble avec Rav Yoel Ben Arosh, shalom.
Shalom, mon ami Rav Roni Akrish.
Nous sommes heureux d'entamer cette nouvelle discussion, ce nouveau débat. Rav Yoel, à propos du Mishkan, à propos du Mikdash, tout commence dans le désert avec Moshe. Nous rencontrons cette nouvelle construction, ce nouveau édifice, Mishkan. Que vient-il nous dire foncièrement?
En réalité, le livre de Shemot introduit une nouvelle notion dans le monde. Dans ce livre apparaît le peuple d'Israël. Et l'apparition du peuple d'Israël se fait par étapes. La première étape, c'est la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte a libéré le peuple de son joug, mais n'est pas encore révélé à sa propre identité. Donc la deuxième étape, c'est le don de la Torah qui va nous révéler à notre propre identité. Et même cela n'est pas encore terminé, il faut une troisième étape qui est la résidence divine d'une manière stable et continuelle dans notre monde. Ça, c'est le Mishkan.
C'est une question qui reste pertinente pour chacun de nous de savoir comment, et c'est la question que posera Shlomo Ameler dans le livre de Melachim Aleph, à savoir comment est-il possible que l'infinie présence du divin, c'est ce que nous appelons généralement son omniprésence, son omniscience dans le monde, puisse se réduire, j'allais dire, excusez-moi le terme, mais entre guillemets, à une peau de chagrin.
Oui, mais en fait, le verset doit être lu réellement comme il est écrit, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham ve'lo betocho.
Oui, ça c'est la grande question sur laquelle se sont repliés l'ensemble des commentateurs et qui nous interrogent, à vous, à moi, comme à nos téléspectateurs, c'est-à-dire véritablement pourquoi employer un pluriel alors que nous parlions d'un événement singulier.
Tout à fait, mais en fait le Mishkan ici représente l'ambassade du ciel dans ce monde. Ça veut dire que la révélation divine est comme un verbe. Ce n'est pas le nom de quelque chose, la Shekhina. C'est en réalité le nom d'un verbe, c'est un verbe. Shekhina veut dire comme Sheina, comme Lina, comme Ritza. C'est le nom d'un verbe, c'est-à-dire la capacité de l'infini à se révéler même au niveau des hommes, c'est-à-dire Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah se met à la portée de l'homme. Et ça, c'est le Mishkan, ça, c'est la capacité de l'infini à réduire, entre guillemets, comme la notion des kabbalistes qui parlent de Tzimtzum, au degré de notre monde.
Donc, si nous parlons du verbe, le verbe, c'est l'Ishkon.
Tout à fait.
Mais dans ce verbe, l'Ishkon, on entend non seulement le substantif de résidence, bien entendu, mais on entend également ce terme qui va nous paraître assez primaire, à savoir le voisin. C'est-à-dire le proche, mais Shachen.
Mais regarde, les lettres du mot Shachen, trois lettres. Shachen ne veut pas dire seulement voisinage, mais veut dire celui qui arrive à révéler, à rendre vrai, à certifier ce qui est en haut. Shachen. Ah. C'est-à-dire que donner le Ken à quelque chose qui est au-delà, à quelque chose qui est invisible, à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, à lui donner en réalité une structure dans ce monde. Tu sais qu'un chevalet d'artiste s'appelle Khan. Eh bien, c'est exactement les mêmes lettres. Autrement dit, la capacité à poser la toile sur laquelle je vais instaurer, je vais projeter mon idée première.
Il y a aussi dans la racine, dans cette sémantique de Shachen, Shin Chafnoun, il y a peut-être aussi, si je puis me permettre, où le voisinage de l'Éternel viendrait nous dire qu'il ne pourrait résider seulement là où les hommes seraient capables d'être foncièrement les véritables voisins, les véritables proches de l'Éternel. Je ne serai, on pourrait dire ainsi, comme dans un traité biblique, je ne serai d'autant plus proche de vous que vous ne le serez de moi. Mais j'ai trouvé un acrostiche intéressant dans le mot Shachen. Shin Chafnoun, ne serait-ce pas, et vous m'en direz en tout cas ce que vous pensez, la Shvita, c'est-à-dire le Shofet, le juge, la Keuna et la Nevoa. Comme si à cet homme, la présence divine veut bien dire tout cela, mais est-ce que dans l'homme ne doit-il pas révéler un tant soit peu de cette dimension de la justice, de cette dimension de la prêtrise, de cette dimension de la prophétie?
C'est magnifique parce qu'en réalité c'est exactement la structure qui permet aux valeurs divines de l'infini de résider dans ce monde. Les sages nous disent qu'il faut une hishtavut hatsura. Je traduis textuellement, c'est que notre forme, entre guillemets, ressemble un tant soit peu à la forme divine qui n'en a pas. C'est-à-dire qu'en réalité, quelle est la forme divine? Quand on parle de forme divine, c'est-à-dire la capacité à révéler, à donner, à partager, à construire, à édifier avec des valeurs qui sont éthiques, avec des valeurs qui sont de justice, avec des valeurs qui sont de lien avec les choses. Donc tout ce que tu viens de dire est englobé dans ce mot Shachen. Je ne peux être ton voisin que si toi-même tu présentes les mêmes degrés pour que nous soyons ressemblants, pour que nous soyons ensemble.
Il y a, au-delà du Mishkan que nous rencontrons dans le désert, une grande question. Mais c'est peut-être qu'une parenthèse qu'on pourrait faire tous les deux, si véritablement le projet divin, au moment de la sortie d'Égypte, était de nous faire passer par El Arish, Haza, Ashkelon, pour entrer sur la terre que l'Éternel donnait aux enfants d'Israël, ce Mishkan, si tout s'était déroulé selon le plan divin, où aurait-il eu lieu?
Le Mishkan...
Ce n'est pas un piège, hein.
Le Mishkan,
c'est une question
à
bon escient.
J'ai bien entendu. Les sages nous disent « Mishkan ihu Mikdash, Mikdash ihu Mishkan ». Autrement dit, il faut faire un amalgame, il faut le faire, entre Mishkan et Mikdash. La seule différence entre Mishkan et Mikdash, c'est que l'un est temporaire et que l'autre est définitif. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est quelque chose qui est en réalité de l'ordre du transportable. Et à ta question... Comment est-ce possible que la présence divine, en réalité, descende déjà dans un mouvement du désert, alors qu'on n'est pas encore arrivé à la terre? Eh bien, la réponse est toute simple. C'est que même dans la présence divine, il y a des étapes, et il y a des valeurs, et il y a une intensité. Ce n'est pas ni blanc ni noir, c'est du noir au blanc, en passant par tous les gris possibles et imaginables.
C'est bien entendu une affirmation qui vient nous révéler le non-manichéisme de l'histoire d'Israël, qui n'est ni jour ou ni nuit, mais qui est un lent processus, comme dit la Gemara de Brachot dans Yerushalmi, kim'a, c'est-à-dire étape par étape, peu à peu, en fin de compte, il y a de cette perfectibilité de l'homme vers le parfait auquel nous aspirons. Et une autre réflexion m'intéresse, par rapport à ce que nous avons dit, lorsqu'on prend un sujet qui nous intéresse à nous dans nos études hors caméra, à savoir que dans l'aristotélisme, par exemple, eh bien, la notion de Elohim, puisque c'est elle qui est entreprise, révèle que l'Éternel ne se révèle pas, que l'Éternel n'est pas dans cette omniprésence du monde créé. Il y a comme une sorte, pour essayer de faire simple, de la part de Elohim, la volonté de se retirer après avoir créé. Et donc, dans la philosophie aristotélicienne, eh bien, Dieu a créé, il y a bien sûr une origine première, mais il n'est plus véritablement présent. Et là me vient cette réflexion, en tout cas, qui m'intéresse. Lorsque je veux expliquer, essayer de comprendre pour moi-même, Mishochen Bamishkan, c'est-à-dire qui réside dans ce Mishkan, et bien entendu, lorsque ce sera à Jérusalem, quelle est cette Shrina? La question que je me pose et que je te pose, c'est Elohim, c'est Yudke Vavke, qui est là? Quelle est cette Shrina? Y a-t-il une différence à expliquer à nos téléspectateurs entre le Elohim Bereshit Bara Elohim et Hashamim et Haaretz et ce Yudke Vavke, le nom de l'Adnout que nous utilisons pour les brachot, pour les prières, pour qui est présent parmi nous. Qui, dans ce tzimtzum, dans cette réduction, veut se faire valoir?
Alors, ta question, en fait, est une question philosophique et qui touche en profondeur tous les noms, d'une manière générale, d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini béni soit-il. Car tu le sais très bien, à partir du moment où nous donnons un nom à quelque chose, on est déjà en train de le limiter. Et en réalité, il s'agit ici toujours de l'infini béni soit-il, qu'on n'arrive même pas à identifier sous une forme positive, donc on dit le nom fini. Parce que je ne peux pas dire il est, je ne peux dire il n'est pas, parce que je n'ai pas cette conscience. Mais au moment du dévoilement, ce même infini, c'est comme si c'était une lumière qui passait par un prisme et qui décompose la lumière en différentes couleurs. Et donc les noms qui vont apparaître du même infini dans notre monde ne sont pas une transformation de l'être suprême, Chas v'Shalom, mais c'est une
émanation,
mais c'est par rapport au receveur et non jamais par rapport au donneur. Je vais te donner un exemple que les sages nous donnent. Imagine-toi que tu sois dans une chambre. La chambre est éclairée par la lumière naturelle du soleil. Tu décides de peindre les vitres de ta fenêtre, les carreaux de ta fenêtre en vert. Eh bien, la lumière du soleil, qui est toujours la même, va rentrer dans la chambre et tu auras l'impression que tu as reçu une lumière verte.
Absolument.
Est-ce que pour autant la lumière du soleil est devenue verte? Pas du tout. Mais en réalité, c'est le prisme, c'est le filtre par lequel cette lumière arrive qui va t'apparaître, qui va venir vers toi sous cette couleur-là. Donc, moralité, lorsque le nom de Hachem descend dans ce monde, selon le degré du receveur, du capteur, eh bien, cette lumière va apparaître sous un autre nom.
J'ai pensé aussi que lorsque l'on voulait nous expliquer à nous-mêmes et à travers nous-mêmes, à ceux qui nous écoutent, cette relation à l'intérieur du Mishkan, puisqu'en fin de compte, le Mishkan s'appelle aussi Ohel Moed, c'est-à-dire la tente d'assignation, comme nous l'appelons en français, mais où Moed n'est pas en vérité, l'assignation n'est pas la véritable traduction de Moed. Moed, c'est plutôt la rencontre. C'est-à-dire l'attente où l'homme n'est pas assigné, mais où il est proposé à l'homme une rencontre possible et tangible. En tout cas, lorsque nous parlons de cet homme, je réfléchis et je me dis qu'il y a aussi dans l'homme, par rapport à la phrase que tu as rappelée, tellement célèbre et tellement commentée, « Veshachanti betoram » à Souli Mikdash, « Veshachanti betoram » où j'ai dit ce fameux pluriel par rapport à l'énoncé singulier, et en vérité que nos commentateurs diront cette réflexion tellement connue qu'en chacun de nous, il y a de ce Mikdash. Alors, je veux faire ce parallèle. En fin de compte, l'homme n'est que poussière dans son origine, et l'âme est d'abord et avant tout divine, et pourtant voici peut-être une manière de répondre à l'interrogation de Shlomo Ameler dans Melachim lorsqu'il dit à Omnam, Ishev Elohim à la Haaretz. Bien, regarde l'homme, cette Neshama est quand même présente dans ce corps qui, à un moment donné, est venu de l'infiniment petit, et unicellulaire presque, et pour au jour de sa mort, après 120 ans, se désagréger pour ne pratiquement plus exister, alors que durant son vécu, son existence, il est porteur de quelque chose d'infini. Ce parallèle te parle?
Bien sûr, mais en réalité, tu fais attention de ce que tu es en train de développer. Nous avons commencé par un Mishkan qui est un édifice construit par l'homme. Et là, tu es passé d'une manière induite, j'allais dire, à un Mishkan qui est l'homme lui-même. Eh bien, à ce degré-là, il faut rajouter un troisième degré. C'est le degré où le Mishkan, ou la Shrina, devient aussi une notion qui s'habille dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces trois degrés qui sont la matrice même de toute la création, je veux parler du temps, de l'espace et de l'homme, eh bien ce sont dans ces trois degrés-là ni dans l'un seulement, ni dans les deux, mais dans les trois, que cette présence divine doit se manifester absolument. Ça veut dire qu'il y a dans ce monde une notion de temps, un jour, qui est le plus fidèle à ses valeurs divines et qui peut donc devenir le porteur de ces valeurs divines, c'est le Shabbat. Il y a dans ce monde un lieu qui est le plus fidèle à ses valeurs divines, qui lui ressemble le plus, et c'est la terre d'Israël, dans laquelle, sur laquelle il y aura cet édifice qui s'appelle le Mishkan, à l'endroit le plus culminant de ce monde, et il y a ce troisième degré qui est l'homme, qui lorsqu'il ressemble à son créateur tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui arrive à monter, à se faire changer sa propre forme pour être le plus fidèle aux valeurs d'en haut, eh bien, il porte en lui ce que le prophète va dire, « Heichal Hashem Hema ». Eux-mêmes, les hommes, deviennent porteurs de ce message divin sur terre. Donc nous avons le temps, l'espace et l'homme, ce fameux triangle qui va être le porteur de cette valeur divine qui, comme par hasard, est au féminin. Fais attention, la Shekhina. C'est-à-dire que cette valeur divine, c'est comme si Akadosh Baruch Hu utilisait un mode féminin pour se révéler au monde. Car la femme, quand tu le sais, est celle qui est capable de prendre un potentiel et à le développer, et à le magnifier, et à le manifester.
Absolument. Je crois qu'en régie, on va nous dire certainement combien de temps il nous reste pour le plateau. Et je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je crois qu'on pourra parler une prochaine fois de ce que je voulais réagir, en fin de compte, à ce que tu viens de dire. Ou en fin de compte, je me rends compte que le Shabbat et la terre d'Israël sont des innés de la création. Ce sont des données innées de la création. Et l'homme est une donnée... innée à la création, mais pas totalement, parce qu'en fin de compte, cet homme, lorsque nous parlions de perfectibilité tout à l'heure, cet homme sera en perpétuelle acquisition de lui-même, c'est-à-dire en perpétuelle aspiration et acquisition de révéler l'infini dans l'être fini qu'il est, et lorsque l'on demande par quel moyen, eh bien, par sa capacité à être et à devenir, si tu veux rajouter un mot pour finir.
Je veux dire tout simplement, et pour vraiment clôturer, que lorsque la chose ne se passe pas, c'est-à-dire quand l'homme n'arrive pas à prendre conscience qu'il est le révélateur de ses valeurs, eh bien, nous sommes entourés de toutes ces catastrophes, de toutes ces violences qui nous entourent aujourd'hui, et dont le monde ne connaissait pas l'existence dans son sens le plus réel et le plus catastrophique. Aujourd'hui, nous avons un monde, en tout cas une certaine catégorie d'hommes dans ce monde qui se disent hommes et qui en réalité réagissent avec une totale différence contraire à ces valeurs divines sous prétexte qu'ils sont porteurs de ce message divin. C'est une question qui doit rester ouverte et il faut faire attention à tous ces degrés-là.
Merci Rav Yoel Ben Arosh.
Merci mon ami, monsieur Roni Akrish.
Et à très bientôt à nos chers téléspectateurs, en tout cas sur la chaîne de la télévision du Machon Meir. Les Itaot Shalom depuis Jérusalem.